VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, un policier a été blessé dans la nuit de lundi à mardi lors d'une attaque par des éléments armés contre le commissariat de Pisila, localité située à 130 km au nord de la capitale Ouagadougou. Le poste de gendarmerie de Rouenobia, non loin de Pisila, a également été ciblé et il a subi d'énormes dégâts selon une source sécuritaire. L'incursion a conduit à la fermeture spontanée des établissements scolaires de Pisila, d'où un appel de la gouverneure de la région du centre-nord, Nandi Somé, exhortant les acteurs de l'enseignement à reprendre les cours et à ne pas céder à la peur et à la panique. Attribué principalement au groupe Ansarul Islam et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, les attaques récurrentes au Burkina Faso ont fait, depuis 2015, plus de 300 morts. Des exercices de simulation d'attaques terroristes avec le soutien d'experts américains ont débuté ce lundi sur différents sites sensibles à Ouagadougou, où a lieu en ce moment le plus grand festival du cinéma africain, le FESPACO. Élection au Sénégal maintenant, après la revendication par le camp du président sortant Macky Sall d'une majorité absolue à la présidentielle de dimanche, le pouvoir et l'opposition continuent à s'affronter sur la tenue ou non d'un second tour. Pour leur part, les autorités en charge de la collecte et de la publication des chiffres officiels ont demandé aux partis de faire preuve de patience. Les premiers résultats ont commencé à être publiés par les autorités compétentes, Sedina Abagay.
La Commission nationale de recensement des votes a annoncé que les résultats provisoires de la présidentielle seraient connus ce vendredi au plus tard. Le juge Demba Kandji, qui en est le président, affirme que le travail de compilation des résultats a démarré et peut durer jusqu'à 5 jours. Face à la presse, le juge a été interpellé sur les chiffres avancés par le premier ministre Mohamed Boun Abdallah John d'une part et les 4 candidats de l'opposition d'autre part. Sa réponse a été claire. Pour lui, personne n'a le droit de proclamer des résultats. C'est la Commission nationale de recensement des votes qui en a la compétence. Pour terminer, le juge Demba Kandji a magnifié la maturité des Sénégalais qui ont voté dans le calme et la sérénité. Un vote dont les résultats provisoires seront connus en fin de semaine avant d'être validés par le Conseil constitutionnel. Au lendemain du scrutin, certaines organisations de la société civile ont également appelé les acteurs politiques à la retenue, ce qui n'a pas empêché le camp du pouvoir et celui de l'opposition de continuer à donner des chiffres, chacun de son côté. À Dakar, Seydina Bagui pour VOA Afrique.
Élection au Nigeria maintenant, le président Muhammadu Buhari reste en tête de la présidentielle dans le pays ce mardi, selon les résultats partiels annoncés progressivement par la Commission nationale électorale. Le chef de l'État sortant a jusque-là remporté 8 États contre 5 à son principal rival, l'ex-vice-président Atiku Abubakar, candidat du PDP, le Parti démocratique populaire d'opposition. Le président conforte son avance au plan national avec presque 3,5 millions de voix contre 2 900 000 à Atiku Abubakar, selon les derniers résultats publiés. Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les 2/3 des 36 États du pays auxquels s'ajoute le territoire d'Abuja. Sinon, un second tour devrait avoir lieu dans une semaine. En attendant, le PDP, le Parti populaire démocratique d'Atiku Abubakar, accuse le pouvoir de manipuler les résultats de l'élection présidentielle. Yakuba Ouédraogo nous donne des détails.
C'est inacceptable, a déclaré Ouché Segondous, directeur de campagne de l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Il a ajouté que cela va être difficile pour le pays tout entier d'accepter un tel niveau d'intimidation, affirmant que dans les bastions de son parti, des bureaux de vote ont été ouverts en retard ou saccagés. La semaine dernière, le PDP a accusé Muhammadu Buhari de n'avoir jamais été démocrate après qu'il a exhorté l'armée à sévir contre les fraudeurs pendant le vote. Le parti au pouvoir a réagi, accusant le PDP de jouer un jeu dangereux en voulant discréditer et déstabiliser le processus électoral. Même si les résultats officiels n'ont pas été révélés, chacun a annoncé sa victoire dès dimanche et accuse l'autre de sabotage et de tricherie. Les observateurs de l'Union européenne ont invité les candidats qui s'estiment lésés à utiliser la voie de la justice. Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les deux tiers des 36 États auxquels s'ajoute le territoire d'Abuja. Sinon, un second tour devrait avoir lieu dans une semaine.
Merci d'écouter VOA Afrique en direct de Washington. République démocratique du Congo, 9 miliciens tués en 2 jours dans l'est du pays. C'est ce que fait savoir l'armée en précisant que 5 miliciens et 4 membres du groupe ougandais musulman des ADF, les forces démocratiques alliées, ont été tués dimanche et lundi au cours de 3 attaques des militaires congolais contre l'opposition. Le major Mac Azoukai, l'un des porte-parole de l'armée nationale congolaise dans la province du Nord Kivu, a par ailleurs indiqué que les forces congolaises ont capturé 5 Maïmaï et 1 ADF.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
RDC toujours, les activistes des droits de l'homme ont commémoré lundi l'an 1 de la mort d'un des leurs, Wosi Mukendi, tué par balle le 25 janvier 2018 par un policier alors qu'il manifestait contre le régime de l'ex-président Kabila à l'appel du comité laïque de coordination, la structure de l'église catholique qui militait à l'époque contre le troisième mandat de Joseph Kabila. Un an après, le policier qui a abattu Wosi Mukendi n'a toujours pas été condamné et la famille de la victime interpelle la justice. Soudan, face à la persistance des manifestations, le président soudanais Omar al-Béchir a durci le ton lundi en interdisant ce type de rassemblement. Mais les organisateurs de la contestation continuent à demander au peuple de descendre dans la rue pour réclamer le départ du chef de l'État. Après avoir instauré vendredi donc l'état d'urgence dans tout le pays, le président al-Béchir a décrété que seules les manifestations autorisées par le gouvernement seront désormais tolérées. Dans ce cadre, il dit avoir autorisé les forces de sécurité à mener des raids dans des bâtiments où des activités suspectes ont lieu et aussi à procéder à des fouilles corporelles. Algérie, des centaines d'étudiants ont protesté ce mardi sur un campus du centre d'Alger contre le 5e mandat pour le président Abdelaziz Bouteflika, qui reste sourd aux appels du Premier ministre exhortant les manifestants à s'exprimer dans les urnes lors de la présidentielle du 18 avril. Pour terminer, à Hanoï, au Vietnam, la capitale vietnamienne se prépare à accueillir demain, jeudi, le 2e sommet entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Objectif du patron de la Maison-Blanche, arriver à la dénucléarisation de la Corée du Nord, même s'il affirme être prêt à prendre son temps. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Kim Jong-un est accompagné dans son long périple ferroviaire de son bras droit, le général Kim Jong-chol, qui a rencontré Donald Trump le mois dernier à la Maison-Blanche, ainsi que sa sœur et conseillère Kim Yong-jong et d'autres proches collaborateurs, selon l'agence nord-coréenne de presse KCNA. Dans un commentaire incisif dimanche, KCNA a appelé Washington à saisir une occasion historique rare, réagissant au scepticisme exprimé dans les médias et au Congrès aux États-Unis sous l'absence de progrès depuis Singapour et les intentions réelles de Pyongyang de se débarrasser de son arsenal nucléaire. Selon Jiang-Yu Tai de l'Institut d'études nord-coréennes à Séoul, prendre le train au lieu de l'avion chinois qui l'avait transporté à Singapour permet cette fois aux dirigeants nord-coréens de marquer son indépendance à l'endroit de Pékin. Plusieurs sources vietnamiennes ont indiqué en privé que Kim Jong-un arriverait au Vietnam par le train jusqu'à la gare de Dong Dang, frontalière de la Chine, avant de gagner Hanoï par la route à 170 km de distance. Cette route sera fermée mardi, ont annoncé les autorités vietnamiennes et des militaires sont déployés le long du parcours depuis samedi.
Merci Lionel Gaïma. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.